Astrid Wendland, vous publiez Le luxe à la conquête du monde, une enquête avec une préface de Sylvain Tesson et publiée aux éditions Miss Tweed. Alors le luxe, bien évidemment, est partout. Et non seulement partout en France, mais aussi partout en Europe et partout dans le monde.
En effet, le luxe, je pense, fait rêver, fait marcher l'économie française, l'économie mondiale. Et le luxe est devenu aussi puissant qu'un pays. Et le luxe, c'est aujourd'hui, je pense, l'un des plus importants employeurs. C'est aussi ce qui fait rayonner l'art de vivre à la française, à l'italienne. Et c'est ce qui fait rêver, pas seulement les consommateurs, mais les jeunes qui sont ambitieux et qui veulent travailler dans des industries aussi dynamiques et où ils ont envie de se dépasser. Alors je pense que le luxe est partout, mais il y a aussi autant de définitions de luxe qu'il y a d'hommes et de femmes sur Terre, et je pense que le luxe se réinvente constamment. Et ce livre, c'est une enquête que j'ai menée pendant plus de 4 ans pour essayer de découvrir et d'expliquer comment les empires de Cartier, d'Hermès et de Louis Vuitton ont été bâtis. Et qui sont les personnages clés et qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et j'ai appris que derrière le glamour, les belles photos, eh bien, il y avait beaucoup de poignards dans le dos, beaucoup de coups bas, parce que cette industrie, sous prétexte qu'elle fait rêver, eh bien, elle se croit tout permis parfois, avec les gens, avec les employés. On ne s'attend pas, n'est-ce pas, derrière un hôtel, un palace, de trouver un champ de ruines et un champ de bataille. Et donc, j'ai découvert que le luxe, c'est l'ombre et la lumière. C'est d'ailleurs ce qui fait sortir le meilleur et le pire de nous-mêmes.
Le monde est fait d'ombre et de lumière.
Le monde est fait d'ombre et de lumière. Toute entreprise humaine est faite de mesquinerie, de tyrannie. Mais ce qui est choquant dans le luxe, c'est qu'ils vendent du rêve. Et moi, j'ai essayé de raconter et les côtés positifs et les côtés négatifs à travers les grands personnages qui ont bâti le luxe, comme Karl Lagerfeld, comme Yves Carcel chez Louis Vuitton, Alain-Dominique Perrin chez Cartier, Jean-Louis Dumas chez Hermès. Et puis j'ai regardé l'avenir avec des nouveaux personnages, Farfetch qui est la réponse d'Amazon dans le luxe et la mode, en tout cas en Europe, et puis d'autres aventures, celle de Ralph Toledano qui est le président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Est-ce qu'il y a justement un changement dans l'histoire du luxe ? Parce que le luxe a toujours mené, je dirais, le monde et les élégants et les élégantes.
Absolument. En fait, le luxe n'existerait pas sans notre besoin de reconnaissance sociale, de porter ses attributs du pouvoir, du succès. Alors un jour, ça va être un sac d'une marque, un jour, ce sera une autre marque. Je pense que le luxe est né, c'est pour ça que j'aime beaucoup la préface de Sylvain Tesson pour ce livre, car il raconte finalement, c'est né quand un homme a mis une plume dans sa toison. Et les autres membres de sa tribu l'ont regardé, se sont dit, tiens, quelle étrangeté, mais ça lui donne du style. Et puis après, ils se sont mis à chercher des plumes plus grandes, plus flamboyantes. Et tout d'un coup, le luxe est devenu le symbole du pouvoir.
Alors justement, pouvoir, à la fois pouvoir de séduction, pouvoir un peu de totalitarisme même peut-être pour certains, d'originalité, mais est-ce qu'on peut parler aussi de génie ?
Oui, absolument. Et il y a beaucoup de génie dans le luxe, que ce soit le génie de créateur de mode, mais aussi dans la joaillerie. Et il y a des visionnaires. Et moi, j'ai voulu, à travers ce livre, Le luxe à la conquête du monde, parler pas seulement des créateurs, mais des visionnaires, justement, de ceux qui ont bâti ces empires et qui, aujourd'hui, emploient des milliers de personnes. Vous savez qu'LVMH, par exemple, emploie quand même 155 milliers de personnes. C'est beaucoup plus que les grands empires de la Silicon Valley.
Alors, il y a le luxe, bien sûr, que l'on voit, et puis il y a le luxe intérieur, c'est-à-dire le luxe, quelquefois, c'est simplement de savoir dire non ou de pouvoir dire non.
Oui, le luxe est associé aussi à notre quête de beauté, car toutes les femmes du monde, que ce soit les Parisiennes, les femmes de Shanghai, les femmes de Bolivie, cherchent la beauté. Et on ne peut pas indissocier, c'est-à-dire séparer le luxe, enfin la notion du luxe, l'idée du luxe de notre quête de beauté, parce que ça fait appel à notre irrationnel. Quand on achète quelque chose, ce n'est pas le rationnel, c'est l'émotion. Quand on achète par exemple un objet de luxe, mais ce que je veux dire, c'est que les marques de luxe exploitent ce trait de la nature humaine. Et d'ailleurs, il y a des créateurs pour lesquels les gens vouent un culte, des marques. Et d'ailleurs, chez les marques elles-mêmes, les gens sont un petit peu comme dans une secte. Il y a une dimension, je dirais, spirituelle aussi du luxe. En fait, c'est un trait du caractère humain qui nous rappelle notre besoin de transcendance, de s'identifier à quelque chose qui est au-dessus de nous-mêmes, de plus fondamental que nous-mêmes. Et c'est aussi une de ces facettes du genre humain que j'explore dans ce livre.
C'est d'une sphère à la fois magique, mais à la fois mystérieuse.
Oui, absolument. Et très secrète. En tout cas, les marques de luxe font tout ce qu'elles peuvent pour préserver le secret. Mais là, j'en ai dévoilé quelques-uns. Mais jusqu'ici, tout va bien. Je n'ai pas encore de problème.
Merci beaucoup pour ce livre, cette enquête sur le luxe à la conquête du monde. Astrid Wetland, c'est publié aux éditions Miss Tweed et c'est préfacé par Sylvain Tesson. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre attention.